Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, il nous reste une dernière question préliminaire à nous poser avant d'entrer plus avant dans le mystère du Christ, c'est-à-dire dans ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu et homme. Avant cela, il faut nous poser la question du motif immédiat de l'incarnation, c'est-à-dire précisément pourquoi Jésus-Christ s'est-il incarné. Nous avons vu jusqu'à maintenant qu'il était convenable qu'il s'incarne, qu'il était possible et convenable qu'il s'incarne, et maintenant nous allons voir la raison pour laquelle il s'incarne. Saint Thomas d'Aquin nous dit qu'il n'y a pas moyen de connaître les raisons des actes de Dieu si Dieu ne nous les révèle pas. Effectivement, nous ne pouvons connaître la pensée de Dieu soit à travers ses œuvres, soit à travers la révélation. Et là, comme il s'agit de quelque chose, d'un décret divin, c'est-à-dire quelque chose qui est à l'intérieur même de la Sainte Trinité, il n'y a que la révélation qui puisse nous le faire connaître. Or, nous voyons que d'un bout à l'autre de l'Écriture sainte, l'incarnation de Jésus-Christ a pour motif la réparation du péché. Au moment du péché originel, Dieu dit: je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ou bien, selon le texte grec, entre son descendant et ta descendance. Son descendant, c'est Jésus-Christ. Lorsque les prophètes nous annoncent Jésus-Christ, ils nous l'annoncent toujours comme le Messie souffrant. Et nous voyons également dans le Nouveau Testament que l'incarnation de Jésus-Christ est toujours liée à la réparation du péché. Cela a de très grandes conséquences pour notre vie spirituelle. Et Mgr Lefebvre insistait beaucoup sur cette vérité. Certes, le Christ est roi. Certes, il vient. Il est prophète, c'est-à-dire qu'il nous enseigne la vérité, mais surtout, le Christ est prêtre et victime. Il est sauveur, et c'est parce qu'il est sauveur qu'il est prêtre et victime. Et Mgr Lefebvre nous en parlait très souvent de cela, et c'est évidemment une des vérités les plus choquantes qui soit, et une des vérités à laquelle on cherche malgré soi spontanément à se soustraire. Parce que il en va de nous comme de notre Seigneur Jésus-Christ au jardin des Oliviers: Père, s'il est possible, que ce calice passe loin de moi. Cependant, non pas que ma volonté soit faite, mais la tienne, la vôtre, Père. Et nous de même, nous souhaitons que la croix passe loin de nous, et il faut ne pas oublier d'ajouter avec notre Seigneur Jésus-Christ: cependant, non pas ma volonté, Dieu, mais la vôtre. Non pas ma volonté, Seigneur, mais la vôtre. Si le Christ est essentiellement prêtre, victime, sauveur, cela veut dire que ses qualités ne lui sont pas surajoutées, il est venu pour cela, il est marqué pour cela. C'est pour cela que dans l'Évangile, il désigne toujours, enfin si souvent, la passion comme son heure, mon heure est venue, mon heure n'est pas encore venue. Là, parce que il est venu sur terre pour cela. La passion là, est comme une forme qui est donnée à sa vie. Et nous ne pouvons pas comprendre la grandeur et l'unité de la vie de Jésus-Christ si nous n'avons pas compris que la passion est la forme dans laquelle toute sa vie a été, on pourrait dire, moulée, coulée. Notre Seigneur n'est pas venu sur terre et puis, trouvant le péché, il ajoute à ses qualités celles de sauveur. Non, il est venu sur terre pour nous sauver. Or, vous le savez, mes bien chers frères, la vie chrétienne consiste à être unis à Jésus-Christ, et par conséquent, la vie chrétienne suppose l'union à Jésus souffrant et mourant, à Jésus ressuscité aussi plus tard. Mais ça, c'est le but, c'est le résultat. Ce qui compte ici-bas, c'est de nous unir à Jésus-Christ et donc à Jésus-Christ souffrant. Saint Paul nous dit, nous sommes les héritiers de Dieu, les co-héritiers du Christ, à condition de souffrir pour être glorifiés. La sainteté chrétienne est donc dans notre configuration au Christ crucifié. Configuration, cela veut dire notre ressemblance, mais plus que notre ressemblance, que nous soyons nous aussi moulés dans le moule de la croix, comme Jésus-Christ a été moulé dans le moule de la croix. C'est pourquoi la Sainte Vierge l'ange annonce à la Sainte Vierge que le Christ sera crucifié, qu'il souffrira, il est le Messie, qu'il doit souffrir pour sauver son peuple. Et la Sainte Vierge, en disant oui, va déjà préparer ce corps de souffrance qui sera le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Les théologiens nous disent que s'il n'y avait pas eu le péché, non seulement il n'y aurait pas eu besoin de l'incarnation, mais même si le Christ était venu, il serait venu dans un corps sans souffrance, un corps impassible, immortel, comme c'était le cas pour Adam, Adam et Ève. Et à cause du péché, notre Seigneur a voulu prendre un corps de souffrance afin de souffrir et de mourir pour nous. Or, qui lui donne ce corps? C'est la Très Sainte Vierge. Et comme la Très Sainte Vierge est associée à l'œuvre de Jésus-Christ, elle n'est pas un pur et simple instrument matériel. Elle est associée humainement, chrétiennement, spirituellement à l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ. La Sainte Vierge, lorsqu'elle donne son corps à Jésus-Christ, sait très bien qu'elle le configure déjà pour être le corps qui sera offert à la Passion et sur la croix. Et la Sainte Vierge étant notre mère, elle nous configure nous aussi. Elle nous forme, nous aussi. Une autre conséquence, c'est qu'il n'y a pas d'œuvre chrétienne qui ne passe, elle aussi, par la passion et par la croix et par la mort. Tout d'abord, l'Église. L'Église doit vivre sa passion et l'Église devra, d'une certaine manière, mourir ou sembler mourir. Nous voyons cela se poindre. Nous voyons cela commencer à se manifester. L'Église, aux yeux des hommes, je parle aux yeux des hommes, n'est déjà presque plus rien. Sous les coups de la hiérarchie, elle disparaît toujours un peu plus aux yeux des hommes. Les évêques, le pape, hélas, la prive continuellement de sa splendeur divine. Et nous voyons bien que la passion de l'Église est en train de se préparer. Et cela nous fait peur à nous aussi. Mais si nous avions bien compris la gloire que Jésus-Christ s'est acquise en sauvant l'humanité par la croix, nous comprendrions la gloire que l'Église va s'acquérir en se configurant à notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, il en ira de l'Église comme de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela ne retire rien à la grave culpabilité des Romains et même des Juifs pour ce qui concerne la mort de Jésus-Christ. Et cela ne retire rien à la très grave culpabilité des évêques et des papes modernes en ce qui concerne la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais de même que notre Seigneur a vaincu ses ennemis, il a vaincu la mort, et qu'il ressuscite, et qu'ainsi ses ennemis sont défaits, de même, l'Église ressuscitera, et le monde sera définitivement vaincu. Ce qui est vrai de l'Église est vrai de toute œuvre chrétienne, mes bien chers frères. Il n'y a pas d'œuvre qui puisse porter du fruit sans passer par la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus le dit lui-même, « Si le grain ne tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt, alors il porte beaucoup de fruits. » Nous le savons bien, toutes les œuvres de l'Église sont nées dans la croix, et il ne faut pas oublier que cela est vrai encore à notre époque. Et ne vous scandalisez pas, mes bien chers frères, de ce que la fidélité catholique semble une petite œuvre de rien du tout, complètement écrasée en apparence, complètement même disloqué. C'est normal que une grande œuvre comme celle de la fidélité, car ce que nous voulons dans la fidélité catholique, c'est la fidélité. Et c'est une très grande œuvre parce que nous maintenons, nous poursuivons ce qu'est l'Église et ce qu'est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne sommes certainement pas les seuls, et notamment je pense aux catholiques chinois, les vrais, qui sont actuellement persécutés, et qui, après avoir maintenu dans la persécution face aux communistes, maintenu la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, la vigueur de la foi, sont maintenant, eux aussi, comme nous, en apparence disloqués, par la hiérarchie de l'Église et par le pape. Et ils vont être à l'heure des choix, comme le fut Monseigneur Lefebvre, pour continuer leur témoignage. Il en va de même pour nous dans la fidélité catholique. Nous avons en Occident à faire ce que ces catholiques font en Chine. Nous avons face au mondialisme ennemi de Dieu à maintenir la splendeur de la foi en Dieu. Et certainement, c'est un des aspects que la Fraternité Saint-Pilice a oublié ou n'a pas su comprendre dans l'enseignement de Mgr Lefebvre. Mgr nous a enseigné, enseigné et enseigné Jésus-Christ et la croix de Jésus-Christ. C'est le mystère sur lequel il revenait constamment. Et lorsque la théologie nous dit que le Christ est prêtre, roi et prophète, Mgr Lefebvre, lui, préférait dire que le Christ est prêtre, roi et victime. C'est sa marque essentielle. Et par conséquent, il ne suffit pas que nous acceptions de souffrir la passion. Nous avons, nous les prêtres, à la suite des évêques, le devoir de vous former, mes bien chers frères, à porter votre croix, à l'aimer et même à la désirer. Notre devoir est de vous configurer au Christ. Et c'est parce que la messe vous configure au Christ souffrant qu'elle a tant d'importance. Ne voyons pas la messe seulement comme une nourriture. Beaucoup trop de tradis voient la messe, de traditionnalistes, voient la messe comme une nourriture. Elle nous configure au Christ souffrant. Et notre ministère, mes bien chers frères, est de vous configurer au Christ souffrant. La mission de la Fraternité Saint-Pédis était, comme celle de Mgr Lefebvre, de nous et de vous configurer au Christ souffrant. Et la situation dramatique de la Fraternité Saint-Pédis vient de ce qu'ils n'ont plus le courage de se configurer et de vous configurer. Et il faut peut-être plus de courage encore pour vous configurer au Christ souffrant que pour se configurer soi-même au Christ souffrant. Parce que c'est une œuvre commune, une œuvre qui nous dépasse en apparence. Et ce que l'on voit actuellement, aussi bien dans la Fraternité Saint-Pédis que dans l'Église moderne, c'est qu'on a fui la croix. Alors on en parle, on la prêche, mais on la fuit. Un fidèle me faisait remarquer hier que le texte par lequel Paul VI a supprimé les 52 ou 3 jours de jeûne dans l'année, qui était de tradition depuis les origines du christianisme. Paul VI fait remarquer dans l'introduction de son texte qu'il le promulgue pour appliquer Vatican II. De nos jours, dit-il, de nos jours, et c'est ça qui est important, tout change. De nos jours, on ne fait plus pénitence comme autrefois. Donc il n'y aura plus que 2 jours de jeûne au lieu de 52. C'est une application de Vatican II. Vatican II a fui la croix pour se faire bien voir du monde. Paul VI fuit la croix pour les mêmes raisons. Et si on ne fait pas attention, on entre dans le même mouvement. Si on fait attention, on résiste, mais la croix, à ce moment-là, la croix est lourde, la croix est à portée, hein, elle n'est pas que de la théorie. Si on n'y fait pas attention, eh bien on fuit la croix à son tour. Voilà, mes bien chers frères, l'enseignement que je voulais vous donner. Et c'est à vous de reprendre cette formation que nous vous donnons, nous les prêtres, et de la transmettre à votre tour, de la transmettre dans votre famille, de la transmettre aux enfants, de configurer vos enfants à la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul moyen de les configurer ensuite à la gloire et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous, les jeunes qui m'écoutez, la raison profonde pour laquelle vous devez désirer servir Dieu dans le sacerdoce, c'est cela. Et dites-vous bien une chose, que si Dieu ne vous appelle pas à le servir dans le sacerdoce, c'est-à-dire dans la croix, par la croix et pour la croix, c'est qu'il vous appelle à le servir d'une autre manière, pour la croix et dans la croix, et non pas qu'il vous exonère, qu'il vous dispense de la croix. Saint Paul nous dit que le mystère du mariage découle directement de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.